Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors vous le savez, avec ce podcast, j'adore inviter des personnalités toutes plus variées, toutes plus différentes les unes que les autres. Ça peut être des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des militaires, des scientifiques, des chercheurs, bref, je brasse large. J'essaie justement de découvrir des personnalités avec des parcours tous différents pour nous inspirer, pour apprendre et essayer, tant bien que mal, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La personne d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle, bien évidemment, il s'agit de Stéphane Bachira. Son nom ne vous dit sans doute pas quelque chose, et pourtant Stéphane, c'est Monsieur Champagne. Pendant 25 ans, il a été vraiment le Monsieur Champagne à la tête des plus belles marques de champagne au monde. Moët et Chandon, Ruinart, Dom Pérignon, Veuve Clicquot. Il a débuté en réalité chez Procter & Gamble il y a quelques années de ça, et puis est entré en 1996 chez LVMH, d'abord chez Moët & Hennessy comme directeur des ventes, puis ensuite dans le reste des postes dans lesquels il a évolué. Il a dirigé Moët & Hennessy à Milan, où il a déménagé avec sa famille, puis est passé chez Ruinart, Veuve Clicquot, Moët, etc. Ce qui est très intéressant avec le parcours de Stéphane, c'est qu'au-delà de cette spécialisation, Stéphane est un homme polyvalent. C'est un homme qui connaît à la fois la marque, mais qui connaît le business au sens large. Et j'ai trouvé vraiment passionnant le fait qu'il arrive à garder finalement cette hauteur de vue, ce recul qu'il nous partage. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que j'ai trouvé que Stéphane n'a pas sa langue dans sa poche et ose dire des choses avec beaucoup de bon sens, avec beaucoup d'humour aussi de temps en temps, ce qui je trouve est assez rafraîchissant. J'espère que cet épisode d'ailleurs vous plaira. Si c'est le cas, eh bien Stéphane m'a dit de vous dire de m'envoyer un message à moi parce qu'il n'est pas du tout présent, figurez-vous. Vous sur les réseaux sociaux, et du coup il ne peut pas savoir si jamais vous avez apprécié sa prise de parole et vous avez apprécié tout simplement cette interview ensemble. Donc voilà, le message est passé. Si jamais vous passez un bon moment avec Stéphane et moi, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, Pauline Aignot à la fois sur LinkedIn et sur Instagram. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Stéphane Bachira. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pauline.
Enchantée.
Ravie de vous rencontrer Pauline.
Et ben moi de même, vous m'avez déjà mise en appétit de bon matin en me parlant de charcuterie italienne, je suis sous le charme.
Eh ben écoutez, vous pouvez mettre de la charcuterie italienne sur la raclette, puisque j'ai vu que ce soir il y avait une raclette au sein de vos équipes, donc c'est plutôt sympa.
Pour commencer Stéphane, je voulais rentrer dans le vif du sujet, ouais, et parler de votre nouvelle aventure. Vous quittez, si je ne me trompe pas, le rôle de CEO de Moët en 2022, donc
oui, 2021,
très récemment,
oui, 2021, ouais.
D'accord, pour vous consacrer donc en partie donc au Champagne EPC en tant que membre du conseil d'administration et qu'advisor.
Ça n'était pas du tout prévu.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ça.
Professionnellement, j'ai passé un quart de siècle à m'occuper de différentes affaires de champagne. Et une fois la décision prise de prendre un peu de recul, suivant la formule consacrée, je regardais différentes choses, sauf une activité champagne. Il se trouve que j'ai eu un collaborateur dont l'un des fils était centralien, ici à Central Paris, et qui avait un copain qui est Édouard, qui est le patron de PC. Lequel Édouard a pris dans son équipe une directrice marketing qui est une ex-proctérienne de Procter & Gamble. Il se trouve que j'ai rencontré mon épouse chez Procter & Gamble il y a maintenant très longtemps. J'étais moi-même chez Procter & Gamble. Donc, Et finalement, j'ai trouvé que le projet porté par Édouard et Camille était très sympa. Le côté affectif du proctérien, qui l'est quand même toujours quelque part durant toute sa vie. Et puis, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas. Mais j'étais pas du tout dans la recherche de quelque activité champenoise que ce soit. Et je précise que lorsque j'ai quitté les affaires d'LVMH en Champagne, j'ai dit, je ne m'occuperai plus du tout de Champagne. Comme quoi, par moment, il faut savoir se taire aussi.
C'est drôle, mais alors du coup, ça me fait vous poser une question peut-être un peu personnelle, mais vous êtes donc quelqu'un, un homme de passion, un homme en fait qui écoute ses instincts, qui écoute ses envies, parce que finalement, c'est presque contre la raison quoi, que vous avez été vers ce choix.
Oui, dans le sens où sincèrement, en Champagne, j'ai vu quand même pas mal de choses. J'ai eu la chance de diriger beaucoup d'affaires de Champagne. Je pensais vraiment avoir fait le tour de la question. Et il s'est trouvé que ce que les dirigeants de PC ont créé est assez original. Je trouve que ça a un petit côté poil à gratter au sein d'une activité champenoise qui, somme toute, existe depuis des siècles. On pourrait considérer que c'est un peu ennuyeux. C'est toujours le même modèle qui se répète. J'ai pensé qu'ils avaient un petit côté poil à gratter, outre le fait que je les trouve talentueux et plutôt sympa, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent prendre la grosse tête. Et voilà, je me suis dit, je tends un coup d'œil, quoi. Et il se trouve que les autres administrateurs sont des gens avec qui j'ai plaisir à écouter, à travailler, qui connaissent beaucoup moins le champagne que moi, ce qui fait un intérêt réciproque de nos réunions. Et puis, maintenant qu'on soit bien clair, je n'ai pas du tout mis d'argent dans cette affaire, parce que je pense que je veux garder ma liberté, hein, pour dire ça, à mon avis, c'est bien, ou là, vous faites une bêtise. Et c'est eux qui dirigent, hein, c'est pas moi.
Vous avez un rôle de ce qu'on appelle parfois board member, donc vous donnez des conseils à l'équipe au sein donc, de ce conseil, c'est ça, d'administration.
Je leur ai dit, je serai un Jiminy Cricket. Hein, c'est un peu le petit cricket qui est sur l'épaule de Pinocchio pour l'éviter de faire des bêtises. Voilà, pas plus que ça.
C'est déjà pas mal. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous disiez, c'est que le champagne, c'est un secteur effectivement qui est assez ancien. Ouais. Et pourtant, là, avec cette entreprise, et même avec Moët à l'époque, il y a eu des innovations très importantes, et il y a eu des innovations tant marketing que produits, finalement, qui ont permis à certaines marques d'émerger très fortement, ce qui va contre l'idée qu'on pourrait se faire d'un secteur effectivement assez ancien. Si on prend un peu de recul, quels seraient, selon vous, des facteurs clés de succès qui permettent justement d'innover, de se différencier dans des métiers comme ça qui paraissent être des métiers qui se transmettent de génération où on a l'impression qu'on a tout vu, on a tout fait?
Alors ça, c'est une question, c'est une des questions de fond. Je pense que, quelle que soit l'activité et quel que soit le type d'industrie, si l'on parvient à faire en sorte que vous ou moi, on projette une personnalité, la nôtre, réelle ou supposée vis-à-vis des autres, à travers un objet ou à travers une action, ça c'est plutôt pas mal et vous restez dans l'air du temps.
Donc,
en d'autres termes, il faut être capable de saisir ce qui fait en sorte que quelqu'un va se livrer à un acte d'achat ou va décider de faire quelque chose. Parce que la réponse classique à votre question, c'est la qualité, une bonne campagne de pub, un truc motivant, ou alors à aujourd'hui quelque chose qui soit bon pour la planète. Enfin, on peut habiller tout un tas de trucs. Mais je pense quand même que ce qui fait qu'un business est successful, c'est que quelque part, un individu, à un moment donné, a envie de projeter sa personnalité, qui une fois de plus peut être sa vraie personnalité ou celle qu'il aimerait avoir, vis-à-vis des autres à travers un objet. Je veux dire, si j'achète tel téléphone portable de telle marque, c'est pas pour rien. Et j'achèterai peut-être pas un téléphone portable différent. Je sais pas si je m'exprime clairement.
Voiture,
c'est un peu la même chose.
Je dois me reconnaître, ouais. C'est ça, dans la marque, ouais.
Reconnaître, adhérer, c'est pas un amour éternel, ça peut changer. On le voit bien dans la mode, qui est un truc où moi, à mon époque, on portait des choses qui aujourd'hui n'existent plus. Bon, mais je pense que c'est ça quand même la clé. Parce que le reste, c'est souvent des artifices. Hein. Prenez une bouteille de champagne ou une montre ou ce que vous voulez. Bon, on fait une analyse de la valeur, on change les trucs, une chose et l'autre. Mais ça, pour moi, c'est plutôt un emplâtre. C'est pas ce qui fait les grands, grands succès. Je pense qu'il faut faire appel à l'âme des gens. Plus que ou rationnel, surtout quand tous les besoins primaires sont plus ou moins couverts dans le monde occidental.
Oui, surtout sur des objets ou des produits, pour utiliser un mot peut-être un petit peu dévalorisant, comme bah, moi je le vois bien, en joaillerie, qui sont en fait malgré tout parfaitement inutiles, ou dans le secteur du champagne, où en fait on est plus dans l'émotion finalement que, ouais, dans dans la nécessité.
Mais le mot est très juste, et en fait on se rend compte que la seule chose pour laquelle les gens aujourd'hui, je parle du monde occidental, sont prêts à dépenser de l'argent, c'est vraiment une émotion. Hein. Si vous n'êtes pas capable de ça, vous serez sur des choses utilitaires, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas le même business, ce n'est pas la même activité.
Vous, Stéphane, qui avez travaillé et qui avez fait fleurir honnêtement des marques incroyables, donc maintenant EPC, mais à l'époque Ruinart, Moët et Chandon, Dom Pérignon aussi, Clicquot. Donc à chaque fois avec une identité, avec, ouais, une marque différente. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des différences? Et donc j'en reviens à ce sujet de l'émotion de la
ça,
marque.
Ça, il faut bien comprendre le DNA de la marque, parce qu'on peut rapidement faire beaucoup de bêtises. Si vous prenez une marque comme Ruinart, en France, on dira c'est la griffe du beau champagne. Ça correspond à une période où la France peut-être rayonnait, où on était le référent dans bien des domaines, en particulier culturels. Si vous demandez aux gens, fermez les yeux, que veut dire Veuve Clicquot, vous allez avoir Sans folie, l'homme est plus petit, vous allez avoir les premières femmes chefs d'entreprise,
l'audace,
avec Nicole Barbe-Ponsardin, etc. Si vous prenez Moët et Chandon, ça va être la Formule 1, c'est du testostérone, Moët et Chandon, c'est pas du tout le même code génétique. Hein. Dom Pérignon, c'est le pouvoir de la création, les créateurs. Il faut vraiment respecter ça. Dans le domaine champenois, comme dans le business des montres que vous connaissez bien ou des bijoux. La tentation, c'est d'aller sur des territoires qui ne sont pas, surtout sur les marques historiques bien sûr, qui ne sont pas les vôtres. Hein, parce que vous dites, tiens, l'entreprise, elle va grandir, et pourquoi je ne m'intéresse pas à ci, et pourquoi je ne m'intéresse pas à là. Et là, il faut faire très très attention, parce que tirer sur une marque, c'est toujours un peu l'affaiblir. Après, il y a des succès phénoménaux. Prenez Vuitton, je pars un truc que je ne connais pas beaucoup, mais enfin, j'ai quand même quelques bases. Quand moi, j'ai rejoint LVMH, il y avait peut-être une vingtaine de magasins qui vendaient du monogramme élevé. Et c'était, je crois, l'art du Louis Vuitton Maltier. Ah, aujourd'hui, c'est plus du tout le même truc. Ça, c'est formidable réussite. C'est pas si facile à faire. Ouais. Beaucoup de marques s'y sont essayées. Peu ont réussi, beaucoup s'y sont cassés les dents. Parce que vous pouvez perdre votre identité.
J'aimerais revenir sur le point que vous disiez, donc ne pas tirer la marque, ne pas tirer sur la marque. Donc, il y a cet ADN qui est comme une ligne directrice, comme une colonne vertébrale, mais il y a des évolutions de marché,
ouais,
l'ère du temps. On veut augmenter, enfin, on veut élargir la clientèle, on veut aller à l'international. Et donc, ma question est vague. J'imagine qu'il n'y a pas une réponse univoque, mais comment faire pour réussir à conserver cet ADN si forte tout en augmentant, en fait, tout simplement le volume de la marque?
Un exemple peut-être qui peut être intéressant, c'est un vin de Moët et Chandon qui s'appelle Ice Imperial. En fait, à l'époque, dans les années 2010, on cherchait un produit capable de capturer la clientèle afro-américaine aux États-Unis. On a donc fait des études de marché tout à fait classiques que tout industriel est capable de mener à bien. Et on s'est rendu compte que cette population-là n'avait d'autres goûts que le sucré. Ils aimaient beaucoup les produits sucrés parce que génération habituée à boire des boissons sucrées, etc. Ils voulaient boire des choses très fraîches parce qu'il y a des ice machines dans tous les couloirs d'hôtels américains. C'était des grands verres parce que c'est le côté splash in your face et le côté show off. Et on a combiné tout ça. Et du coup, on a créé un produit qui est Ice Imperial, Moët et Chandon Ice Imperial, qui est très dosé en sucre, qui est un très bon produit. Et on l'a fait vraiment pour essayer de capturer cette clientèle afro-américaine et hispanique aux États-Unis. On a lancé ce produit-là dans quelques villes américaines. Je crois que c'était Miami. On avait fait Cancun au Mexique aussi. On a fait quelques villes comme ça. Et le truc est parti comme un missile, quoi. Au-delà de toutes mes espérances. Clin d'œil aux petits spécialistes du marketing, j'avais vu pas mal de packaging. Ice Imperial, c'est un packaging complètement blanc, avec un sleeve blanc sur la bouteille, qui était une rupture totale de tous les codes. Tout le monde a dit, mais Stéphane, fais pas ça, c'est une connerie, etc. J'ai dit, bon, à la fin, personne n'est d'accord, on va faire celui-là. Et ça a été un truc, un énorme succès, vraiment. Donc oui, même dans des... Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas fait d'autres types de bêtises, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Mais sur ce coup-là, franchement, c'était pas mal. Et après, là, on a fait des ratés aussi.
Et là, vous aviez quand même réussi à conserver l'ADN de la marque.
Il y avait le côté success is a matter of style. Il y avait tout Mouette et Chandon là-dedans, mais différent.
Donc, c'est une adaptation finalement avec comme un autre regard, on va dire, sur cette même ADN qui, en l'occurrence, en cas de Mouette, est le succès.
C'est obligé d'adapter parce que le monde, grâce à Dieu, n'est pas le même partout. Et honnêtement, les aspirations des anglo-saxons ne sont pas les mêmes que les asiatiques. Prenez les office ladies au Japon, par exemple, qui sont des consommatrices de vin de champagne rosé dans des proportions qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc, oui, il faut s'adapter. Par contre, il faut bien, bien conserver, je pense, ce qui est la colonne vertébrale d'une marque. C'est-à-dire l'endroit où elle a été créée, le visionnaire, le fondateur, l'histoire qui est la sienne. Voilà, et ça, il faut l'adapter.
Vous, en tant que dirigeant, quand vous arriviez, alors au début, pas directement en tant que dirigeant chez toutes ces belles marques, mais dans l'entreprise, quels ont été les moyens en fait que vous avez mis en place pour justement comprendre aussi finement la marque, parce que j'ai l'impression que c'est très psychologique et que vous aviez une connaissance très fine justement du client et de sa psychologie. Est-ce que vous pourriez m'expliquer finalement comment faire quand on arrive dans une nouvelle entreprise qu'on découvre pour en fait plonger, si vous voulez, dans la compréhension de la connaissance
Alors,
client et de la marque?
Ils ont un énorme avantage, hein. C'est qu'ils sont très jeunes et ils n'existaient pas. Sur des affaires comme Mouette et Chandon ou Veuve Clicquot, ça existe depuis 1772 pour Clicquot et 1743 pour Mouette. Donc, c'est quand même des pétroliers.
C'est assez cadré, quoi.
Et heureusement, il y a une histoire formidable qu'on doit adapter. Bon, ce qui m'a plu, c'est EPC, outre la fine bande de jeunes talentueux, c'est que on peut faire pas mal de choses dans la mesure où il n'y a pas de passé. On n'a pas à se dire ça, faut pas y toucher, puisque juste il n'y a juste rien. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ça m'a quand même beaucoup plu. L'autre truc qui m'a plu, c'est qu'en fait, ils ont un système lié aux approvisionnements qui est très novateur, hein, sans porter de stock, une chose et l'autre. Donc je trouve que ça correspond bien à tout ce mouvement de start-up qu'on voit dans notre pays, que je connais pas vraiment bien. J'ai un fils qui a créé une start-up, j'ai vu ça dans mon salon, je trouve que c'est très bien. L'autre truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il travaille pas du tout comme nous. Surtout dans des grosses entreprises, c'est normé, il y a le budget, il y a les revues de performance, il y a tout un tas de trucs, de processus. Eux, ils n'ont pas tout ça. Et ça, je trouve que, c'était toujours plutôt mon caractère. Et deux, là, ça m'amuse bien, ça me plaît bien.
J'allais vous demander, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus différent entre toutes vos années chez LVMH et maintenant que vous voyez, on va dire, quelque chose de très différent? C'est vrai que j'ai rarement sur le podcast la chance d'avoir des invités, même si je sais que vous n'êtes pas opérationnel chez EPC.
Non, je ne veux pas.
Mais si vous voulez, c'est assez rare finalement d'être passé à des postes comme vous les avez connus chez LVMH, donc dans des très grands groupes, ouais. Et en même temps de voir quand même de l'intérieur des startups qui sont en train de naître.
C'est quand même l'intérêt pour moi, à l'âge que j'ai, avec ce que j'ai fait, puisque les grands groupes, je pense quand même, entre Procter & Gamble et LVMH, avoir une petite idée. Je vous dis, j'ai un fils qui est start-upper, j'ai vu ça dans le salon, bon, très bien. Et là, je les vois mener leur aventure à bien. Donc, ce qui me plaît, c'est la manière dont ils travaillent entre eux, le fait qu'ils n'ont absolument aucun tabou, un, parce qu'ils sont jeunes, et deux, parce qu'il y a 3 ans, ils étaient à l'école, ou 4 ans, ils étaient à l'école. Donc ça vous permet de risquer sans faire n'importe quoi. Moi, je les pousse quand même à oser, quoi. Parce que s'ils ne font pas là maintenant, ils ne le feront jamais.
À oser faire quoi?
Par exemple, à remettre en cause leur stratégie prix, à essayer de se projeter aussi. Parce que quand c'est des petites startups comme ça, l'horizon, c'est le 31 décembre, quoi. Or, le champagne, c'est des métiers à cycle long, hein. Quand on met une bouteille de Dom Pérignon en cave, si elle est mauvaise, on s'en rend compte 10 ans après, hein. Donc, donc j'essaye de leur dire, faites attention, parce que vous qui dirigez cette affaire, vous n'êtes pas payé pour poser l'avion, vous êtes payé pour éclairer la piste. Même si, là où ils sont en ce moment, il faut faire les deux. Il faut poser l'avion et essayer de le mettre sur la piste, quoi.
C'est intéressant, parce que c'est vrai que je pense que moi, je suis dans un métier de joaillerie, donc j'imagine aussi c'est des métiers de temps long, des métiers où il faut être un peu patient et où finalement il y a parfois une inertie d'ailleurs assez forte des actions marketing, parce que finalement entre le moment où quelqu'un va voir un produit, l'apprécier, le moment où il va potentiellement l'acheter, il y a en fait toute cette émotion qui doit être construite, qui doit être maturée. Je peux imaginer que c'est la même chose dans le champagne. Et donc là-dessus, une question...
Il y a une différence, ouais. Peut-être, c'est que champagne, ça a un énorme avantage. Partout sur la planète, ça veut dire France. et c'est une aire d'appellation, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait dépoussiérer un peu, qui est extrêmement réglementé. Hein, on produit du champagne dans tel endroit, avec telle durée de vieillissement, dans tel type de flaconnage. Bon, petit message pour les vignerons champenois, peut-être de temps en temps enlever vos cravates, quoi, parce que le monde y change. Peut-être il faut regarder d'autres types de conditionnement, peut-être il faut regarder ce qui se passe dans les spiritueux, qui sont une catégorie beaucoup, beaucoup plus innovatrice que le champagne. Hein. Il ne faut pas renier ce qu'on est, mais il faut garder un pied dans le passé, tout en évitant de ne pas se projeter dans le futur, parce que le monde y change. Petit conseil pour mes camarades champenois.
Le conseil est passé. Vous me tendez une perche, je voulais parler de changement. Je sais que vous avez participé au virage de la marque Ruinart.
Ouais.
J'aimerais bien que vous me racontiez ça. Qu'est-ce qui a été le plus fou dans cette aventure ?
Je pense que ça s'est fait en... Il y a eu... C'est une histoire, en fait. Ruinart faisait partie de Mouette et Chandon, puisque Mouette et Chandon a racheté Ruinart en 1963, si mémoire ne me fait pas défaut. Après, le petit enfant Ruinart s'est trouvé au milieu de l'énorme famille Mouette et Chandon, où il n'y a que des gros balèzes et tout ça et tout ça. Et puis, ça a été un peu abandonné. Et l'un de mes prédécesseurs, qui a au demeurant dirigé aussi Annecy, a été nommé à la tête de cette belle endormie. Et il a fait un truc qui est quand même qui a été à l'époque, aujourd'hui ce serait plus le cas, mais qui a fait ce magnifique flacon transparent, dit le flacon séducteur, et qui s'est dit finalement des brutes sans années, il y en a beaucoup, je veux faire du blanc de blanc. Ça a été le déclic. Évidemment, comme il était bon, il a été promu rapidement. Ensuite, je me suis occupé de son truc et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et en fait, on était dans Ruinart 1729, la plus ancienne maison de Champagne. Je me dis, si tu restes là, on va bientôt te mettre au musée, quoi. Donc, j'ai essayé de trouver un truc avec un pied dans le passé, tout en projetant la marque dans le futur. Et je m'étais dit, on va faire des accords avec tout ce qui est art contemporain. Art Basel, Miami, tous ces trucs-là. Et ça a pris. Ça a pris avec un bon travail marketing qui était vraiment élégant, un peu discret, voilà, en ciblant bien les investissements. Paris, c'était 7e, 16e, par exemple, au moins au début. Et on est allé très, très peu à l'international. Et à l'international, juste sur les spots très haut de gamme. Mais pas que des étoiles Michelin. On a pris aussi quelques endroits trendy. Donc ça, ça a été ma petite contribution.
Donc attendez, je suis obligée. Moi, je suis aussi une marketeuse, donc là, ça m'intéresse énormément. Même une marque comme Ruinart, qui quand même n'était pas si petite à l'époque, malgré tout.
C'est petit quand même. Je ne vous donne pas les chiffres, mais c'était petit.
D'accord. Mais en termes de collaborateurs, par exemple,
il y avait une cinquantaine de personnes.
D'accord. Mais donc, une marque assez petite, voilà. Vous aviez vraiment pris le parti de cibler de manière très, très précise.
Le plan, il était bien. Le plan, honnêtement, il était bien. Le portefeuille, enfin le produit, c'est mon prédécesseur qui l'a fait, hein, ce flacon séducteur, la bouteille transparente. Moi, je pense que j'ai mis la plateforme de communication, hein, et derrière, les personnes qui se sont succédées ont, elles, ouvert à l'international et ont fait le travail d'ouvrir les filiales, etc. etc. Aujourd'hui, une fois de plus, je ne donne pas le chiffre, mais c'est quand même un super succès.
C'est un immense succès. Mais après, ça a commencé par 7e et 16e arrondissement.
Il faut toujours, et c'est ce que je dis à ces jeunes gens de EPC, là, j'ai vu, ils étaient un peu partout, dans des pays. Je dis, mais quel est le sens de ça? Vous êtes en rupture en France. Et, voilà, donc, faites les choses de manière ordonnée et séquentielle. Bien sûr que quand c'est petit comme ça, on se dit, waouh, je fais rentrer du chiffre d'affaires et tout ça. Mais encore, il faut toujours se souvenir, poser l'avion, mais aussi éclairer la piste. Hein, donc, vous ne pouvez pas partir comme ça, comme un lapin qui en a... comme un poulet qui en a coupé la tête partout. Il faut un plan quand même. Et le plan Ruinart était pas mal.
Vous enchaînez ensuite, si je ne me trompe pas, avec Mouette.
Non, Clicquot après.
Ah, Clicquot, je me trompe alors. Alors, je veux bien qu'on passe à Mouette d'abord, parce que là, pour le coup, on passe à une très grosse structure.
Ouais. Enfin, ce n'est pas General Motors, mais à l'échelle du champagne, oui, c'est la grande maison.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, et avec en plus une dimension très internationale, si je ne me trompe pas, pour le coup. Ouais. Donc là, est-ce que vous pourriez me raconter de la même manière que pour Ruinart, quand vous arrivez finalement, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les premières actions? Parce que c'est fondamentalement différent de ce que vous aviez vécu avec Ruinart, quoi, quand même.
L'échelle, parce qu'en fait, dans la séquence, il y a eu Ruinart, Clicquot, je suis resté deux ans et demi, et après le pétrolier, donc la grande maison où on mettait Chandon. Donc les gens, ils me connaissaient quand même en Champagne, avec les bons et les mauvais côtés. Mouette et Chandon, c'est un gros pétrolier, donc il n'y a pas de révolution. Et en plus, on est dans des métiers à cycle long. Hein. Donc, je suis parti en 2021 ou 2022. J'ai à peine goûté le premier Dom Pérignon qui a été mis en cave quand j'étais président de cette affaire. Donc, il faut quand même être très patient. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner de l'élan. Hein, de faire en sorte que même dans un métier qui vit au rythme de la vigne, ben on comprenne qu'on est au 21e siècle. Je pense qu'on a fait pas mal de choses sur tout ce qui était digitalisation. Beaucoup de choses sur qualité, sécurité des aliments et surtout environnement. Hein. Donc là, ça a vraiment été l'accent. Il y avait un gros problème de capacité industrielle, donc on a créé avec évidemment l'accord de l'actionnaire une usine à la sortie d'Épernay, Montaigu. On a rénové le château historique de la famille Chandon à la sortie d'Épernay, donc on a fait quand même pas mal de choses. Donc je pense que à court terme, je voulais quand même accélérer le truc parce que c'est dispersé en plus. Il y a des gens qui sont à 150 km d'Épernay, au bout du vignoble, une chose et l'autre. Donc, essayer de faire en sorte que cette communauté comprenne ben, qu'il fallait qu'elle ait un sens. Donc, j'ai essayé de donner un sens commun un peu à tout le monde en mettant en place les outils de communication essentiellement. Et puis aussi, on a pas mal mis d'investissements en place. Et là, l'actionnaire a quand même été remarquablement... positif vis-à-vis de l'entreprise, à la fois en industriel, mais aussi en patrimonial. On a refait beaucoup de choses. Après, je serais resté un peu plus de 10 ans ou une dizaine d'années. L'entreprise existe depuis 277 ans. Faut éviter de faire une grosse connerie. Voilà, quoi.
Ce qui me marque beaucoup dans ce que vous dites depuis le départ, on parle de toutes ces marques, justement, c'est qu'en fait, vous étiez, là, en l'occurrence, pour Moët et pour Ruinart, CEO, donc le chef de...
Attention, vous n'êtes jamais que ce que les autres veulent que vous soyez.
Bien sûr, bien sûr.
À la fois vos actionnaires et vos salariés.
Bien sûr. Mais ce que j'entends par là, c'est que je trouve intéressant que vous ayez gardé un focus très marketing, très communication, d'après ce que je vous dites, en tout cas de ce que j'ai entendu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme ce sont des marques et pas des entreprises dans l'industrie ou quoi que ce soit, bah finalement, le dirigeant, c'était ça mon point, a un rôle en fait quand même très fort au niveau de la marque.
Très, très bonne question.
Ah,
c'est que
ça me fait plaisir.
Les gens me disent « qu'est-ce que vous faisiez ?» Et ma réponse, c'est « j'étais bon à tout et propre à rien ». Parce que là, on parle plutôt marketing et commercial. Ouais. Mais j'étais capable de m'occuper d'approvisionnement, de raisin, de production, de juridique, sauf d'informatique, qui là était vraiment un truc... bon. Et je pense qu'on est sur une espèce de changement d'époque. C'est-à-dire que pour ma génération, le gars qui se trouvait en haut de l'affaire était quand même ce que je suis moi, bon à tout et propre à rien. Et puis on s'entourait de spécialistes qui sur les appros, qui en production, qui en achat, patati et patata. À aujourd'hui, j'observe qu'on prend des profils beaucoup plus d'experts dans un domaine. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais je pense qu'il faut juste s'interroger sur ça. Parce qu'une entreprise, c'est une entité légale, c'est un corps social. Il faut que les différentes fonctions se reconnaissent dans le type qui dirige le bateau. Plus ou moins, mais quand même. Si vous mettez un expert sur un truc, aussi talentueux soit-elle ou soit-il, il faut que tout le monde s'y retrouve un peu. Quoi. Et bon, c'est une observation personnelle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est aussi à une époque où ça fait peut-être un peu peur, à la fois aux actionnaires, au marché, de donner beaucoup de pouvoir à une seule personne. Après, ça dépend de la définition que vous faites du pouvoir. J'ai toujours dit aux gens, le pouvoir, c'est de dire à quelqu'un, tu penses faire un truc, ben, do it, fais-le. Et vous lui donnez les moyens, condition que ce n'est pas une grosse connerie. Mais vous êtes beaucoup plus puissant quand vous dites à quelqu'un, fais-le, que quand vous dites oui ou que vous dites non. Je trouve que c'est une période intéressante qui se passe dans les entreprises maintenant. Et les jeunes EPC, comme les autres start-upers ou entrepreneurs français, doivent y apporter leur pierre. Mais j'observe quand même que ceux qui réussissent le plus sont souvent ceux qui sont un peu touche-à-tout. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je vois.
Je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit précédemment quand vous disiez ça faisait quand même plusieurs fois que j'étais à la tête d'entreprise de champagne et du coup on me connaissait en bien comme en mal. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça apportait des choses bien et ça apportait des choses moins bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, c'est peut-être un peu indiscret, mais en quoi est-ce que ça pouvait être bien ou mal qu'on vous connaisse autant ?
Bien, parce que je pense que les gens me reconnaissaient quand même de pas amener les entreprises dans le mur et d'être quelqu'un sensible au corps social. Ça ne veut pas dire qu'on peut materner tout le monde, mais ça veut dire qu'on considère que l'entreprise, au-delà du rôle économique, de la rémunération de l'actionnaire, elle a aussi un rôle social. Surtout un truc comme Mouette et Chandon fait partie de l'histoire de France. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais, Mouette et Chandon, au même titre que Clicquot et Ruinart. Après, je ne suis pas patient. en Champagne, c'est vrai que ça s'est moins vu chez Ruinart ou Clicquot parce que c'était plus petit. Mouette, bousculer le pétrolier, ça s'est un peu vu. Bon, après, les cheveux blancs sont venus, voilà. Par contre, je pense que les gens aimaient beaucoup que je déléguais. C'est-à-dire que je veux des patrons qui patronnent. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Donc ça, je pense que les gens l'appréciaient. Après, je ne suis pas très patient non plus. Parfois, les réunions étaient finies avant même d'avoir commencé. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes. Mais ce qu'il faut, c'est que vous interrogiez les gens à Épernay, puisque eux, ils auront une vue plus précise de moi.
Alors, l'impatience, ça me parle un peu, parce que bon, bah, je pense que c'est un défaut quand même de beaucoup d'entrepreneurs, mais qui est le défaut de sa qualité aussi, puisqu'on aime faire avancer les choses.
Ça peut heurter, parce que si vous avez quelqu'un, je pense par exemple aux jeunes. Moi, j'aimais bien avoir les jeunes, parce que quand même, le futur de l'entreprise, ce n'est pas moi, c'est plutôt eux. Et c'est vrai que j'avais le sentiment, alors je disais trop rien, mais je voyais bien qu'ils avaient quand même bossé comme des malades pour présenter un truc qui, somme toute, à l'échelle d'entreprise, bon, voilà. Et des fois, je disais, je regarde mes montres ou même des trucs auxquels on se dit après, Stéphane, t'as fait une connerie, mais vous regardez le téléphone ou votre montre et autres, et quelque part, vous vous dites, tu fais pas ton boulot parce que ton boulot, c'est juste de faire en sorte que ce jeune-là ou cette jeune-là, ben, elle grandisse et voilà. Donc, j'ai pas été bon en tout, hein, c'est sûr.
Est-ce que vous pourriez me dire, Stéphane, selon vous, c'est un peu bizarre comme question, mais je la pose quand même, quels seraient vos grands talents ?
Je pense que la faculté d'entraîner un groupe disparate et non homogène, ce qui par nature est une entreprise, à faire quelque chose, est probablement un truc que je fais relativement bien.
Relativement.
Ouais. Ah oui, mais vous ne pouvez pas... Ouais. J'ai des relations assez houleuses avec les syndicats et tout ça quand même. Bon, mais on ne peut pas être d'accord. Par nature, on ne peut pas être d'accord. Mais par contre, j'ai trouvé que il n'y a jamais eu de mot d'oiseau. Il y a toujours eu du respect de part et d'autre. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. L'avantage, c'est que vous existez depuis 277 ans. Donc quand même, vous avez fait des guerres, des révolutions, des trucs... dans les périodes de crise, ça sert, parce que vous dites, bon, on va calmer le jeu, hein, il y a 2 siècles et demi avant, on espère 2 siècles et demi devant, donc voilà, ça c'était plutôt un truc utile.
Si vous l'acceptez, j'aimerais qu'on revienne à votre enfance, et qu'on reparle un petit peu du petit Stéphane, donc je passe complètement du coq à l'âne. Ouais. Comment était la vie du petit Stéphane ? À quoi vous ressembliez ? Comment était votre famille ?
Ma famille est d'origine italienne. Mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 30-40, après une histoire assez compliquée. Mon père s'est établi en France en 1958 avec ma mère. Moi, je suis né en 1959. J'ai fait toute ma scolarité à Montbéliard, lycée Cuvier, que je salue, je suis invité régulièrement et tout ça. J'ai passé mon bac... Et après, je suis parti en prépa école de commerce à Dijon, lycée Carnot à Dijon. J'ai intégré une école. Et à cette époque-là, donc on est en 1983, il y avait 3 sociétés qui venaient recruter les jeunes étudiants et tout ça. Je me rappelle, il y avait IBM, il y avait Procter & Gamble et la troisième, c'est je ne sais plus qui. IBM, Procter & Gamble, bon. Donc, je passais les entretiens. Et Procter & Gamble, il y avait une batterie de tests dans tous les sens et tout. Et un jour, il y a je ne sais plus pourquoi, je croise quelqu'un qui possédait un centre Leclerc, pour ne pas le nommer, qui me dit « tu commences demain matin ». Bon, ça m'a fait peur parce que d'un côté, il y avait des tests à plus en finir chez Procter. De l'autre côté, le propriétaire du magasin, un patron, me dit « tu commences demain matin ». J'ai pris Procter, je ne sais pas si j'ai fait une connerie ou pas. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc après, j'ai fait, comme tous les Procteriens, vente et puis marketing. Et ensuite, j'avais été chassé... par des Allemands, Balzen, des biscuits, pour être National Key Account, compte clé. Ça m'avait moyennement plu, le biscuit, tout ça, c'était pas trop mon truc. Et ensuite, j'avais été rechassé pour une multinationale américaine. Et par pur hasard, en 92, un truc comme ça, je croise la DRH historique d'LVMH, Madame Lancio, qui me dit, lunettes sur le nez, si vous cherchez autre chose que les multinationales américaines, on connaît un jeune talentueux qui veut faire le premier groupe de luxe mondial. Bon, ben, j'ai dit, ok. Entretien à l'ancien siège de LVMH, ça remonte à il y a bien longtemps, et je commence comme directeur commercial de la filiale française de Veuve Clicquot.
Donc, hasard complet que vous arrêtez ici dans le Champagne, quoi.
Ah ben là, quand j'ai passé les entretiens avec Madame Lancio, c'était tout petit LVMH. Hein, ouais. Il y avait Vuitton, il y avait Champagne, Cognac, ouais. Le Bon Marché. Enfin, c'était quand même pas énorme, hein, même si c'était quand même une jolie petite affaire. Bon, donc je suis tombé dans le Champagne, mais j'aurais pu tomber ailleurs. Il n'y avait pas Sephora, il n'y avait pas tout ça. Hein. Mm. Et là, donc je remets un peu d'or, parce que le Procterien est quand même connu pour mettre de l'ordre. Hein. Donc je mets un peu d'or dans les conditions commerciales, dans tout ce truc-là. Et à un moment donné, on me dit, t'as un nouveau patron. Bref, ça ne m'allait pas du tout. Donc je retourne chez Procter & Gamble. Ah. Le patron de Clicquot de l'époque, qui se reconnaîtra, me téléphone un jour au mois de mai. Il me dit, tu vas au Grand Prix d'Imola. Je dis, mais qu'est-ce que j'avais fait au Grand Prix d'Imola? Il me dit, tu vas au Grand Prix d'Imola, tu récupères, j'aime les voitures, hein, tu récupères ton ticket auprès de l'agent Clicquot italien et je vais au Grand Prix d'Imola. Bon, très bien. Le dimanche soir, à l'aéroport de Milan, à l'INAT, mon patron me téléphone et me dit, ton patron ne viendra pas lundi, voilà, donc on termine. Bon, je dis, dans ces conditions, je reviens. Je reviens et les chasseurs de tête me disent, ton patron cherche un DG pour cette affaire qui s'appelait CSA, qui était... truc, ça faisait 600 millions de l'époque. C'était un joli petit distributeur qui faisait Clicquot, Canard Duchesne, Père Magloire et puis des whiskies de Youdi. Bon, les mois passent et au mois de juin, la personne qui se reconnaîtra, je pense, m'appelle et il me dit « Bon, t'es pas plus bête qu'un autre, on va te nommer DG de ce truc. » Et j'avais 34 ans. Ça se faisait à l'époque parce que tout le monde était jeune. Vous voyez, c'était... Voilà, donc j'ai fait ça. 2 ans, je crois, un truc. Et là, après, on a fusionné 3 sociétés en France de vins et spiritueux. Le hasard a fait que je me suis retrouvé un peu tout seul dans cette affaire, parce que moi, j'étais très jeune DG, genre 34 ou 35 ans, et les deux autres étaient, je sais pas, plus de 50 ans, 55 ans, quoi. Et je me suis pas dégonflé, je suis allé voir le patron de l'époque et je lui dis, des 3 sociétés, les chiffres prouvent que la mieux dirigée, c'est la mienne, alors je vais être patron de tout le bousin.
Ah oui, quand même.
Et ce gars-là me dit, il se reconnaîtra aussi, il me dit... je pense que tu as le talent pour le faire, mais tu le feras pas parce que ce serait pas un cadeau à te faire et je vais t'expliquer pourquoi. Celui que je vais nommer, il va faire 6 mois. Il va être remplacé par le second qui va faire 6 mois et tu auras le truc après. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait cette société qui s'appelle MHD, qui est une très belle entreprise maintenant ici. Et ensuite, on m'a dit, tu vas aller en Argentine, t'occuper des sparkling argentins Bodegas des Chandons. Je reviens à la maison, on avait 2 enfants à l'époque, ou 3. Et je dis, allez hop, Pampa, Cowboy, on part en Argentine, tout le monde apprend l'espagnol. Ça, c'était en octobre. En décembre, on me dit, hop, changement de direction, tu vas à Milan. Donc, je suis parti à Milan, mon épouse, les 3 gamins et moi, on a vécu 6 ans à Milan, qui a été une formidable aventure pour moi, professionnellement, parce que c'est quand même pas mal développé. Pour les enfants qui sont tous bilingues italiens. Puis en plus, c'est un joli pied de nez de l'histoire que moi, je revienne en Italie, quoi. Donc, on a fait 6 ans. Ensuite, je suis revenu, Ruinart, Clicquot et le pétrolier, Mouette. Voilà.
Vous aimez le changement?
Oui. Oui, c'était bien, mais d'un côté, c'est assez rare de faire un quart de siècle en Champagne. Hein. On n'est pas nombreux. Mais je pense que je serai le dernier avant un moment à avoir eu les 3 maisons. Enfin, même Krug que j'ai eu, puisque quand on a racheté Krug en 98, sur le papier, j'étais patron de Krug. Mais j'ai jamais mis les pieds, c'était juste un truc juridique.
Le fait d'avoir autant de changements de poste, de localisation, c'est quelque chose, je pense, qui parle à certaines personnes qui nous écoutent, hein, aussi, ils peuvent vivre ça. Et parfois, il y a une certaine résistance, justement, au changement, parce qu'on a peur. Quand on vous dit à 34 ans, bon, bah, Stéphane, maintenant, il va falloir être DG. Votre réaction dans ce genre de cas, c'est quoi? Il
n'y a pas de question. Honnêtement, je ne me suis pas posé la question. Même quand j'étais jeune, quand même, les gens, ils disent, tu vas faire quoi quand on est soldat? Parce qu'à l'époque, on était soldat et tout ça. Et je m'étais toujours dit, mon truc, ce sera quand même de diriger une entreprise. À moi ou pour d'autres, ça, je l'ai toujours eu.
Et vous savez d'où ça vient?
Non, parce que je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Mais bon, ça, je pense que si loin que ma mémoire remonte, c'était ça, ouais.
Une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises qui vous ont le plus marqué? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous viennent à l'esprit ?
Le sens du travail, certainement, parce que c'était des générations qui devaient sacrément se retrousser les manches, on ne faisait pas de cadeaux. L'honnêteté, ça franchement, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pris. Je pense des valeurs quand même très franco-italiennes, quoi. Respect de l'autre, même si je suis capable de m'emporter, c'est quand j'entends de grosses conneries. Des choses très, très classiques. L'effort aussi. T'es plutôt des gros travailleurs chez moi. Voilà. Rien de vraiment...
Si on revient à LVMH, vous avez parlé de Moët, vous avez parlé de Ruinart. J'aimerais parler un petit peu de Dom Pérignon.
Ouais.
Si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai mal compris, Dom Pérignon, donc, vous y arrivez à un moment...
C'est dans Moët et Chandon, hein, c'est consolidé.
D'accord,
dans Moët et Chandon.
Dans Moët et Chandon. Donc en fait, ouais. Quand vous étiez à la tête de Moët, vous étiez aussi à la tête...
Il y a trois marques, Mercier, Moët et Dom Pérignon.
Et donc en tant que dirigeant de Moët, vous aviez les trois, dans le portefeuille de la marque, mais donc avec, on va dire quand même des enjeux qui sont très très différents, puisque Moët, donc la fusée...
Bah, ce sont trois marques, c'est comme si quelqu'un a Ferrari, Porsche et Lamborghini, ouais, n'a rien à voir, ce sont des marques très différentes, des histoires différentes. Maintenant, quand une affaire existe depuis plus de 270 ans, vous imaginez bien, les gens ne le savent pas, mais Moët et Chandon a racheté Parfum Christian Dior dans les années 60. LVMH est coté MC à Paris parce que c'est Moët et Chandon qui était le support, le véhicule d'introduction en bourse. Donc toutes ces histoires-là font que, au fil du temps, Ruinart est arrivé. Ensuite, il y a eu Mercier. Eugène Mercier, c'est un génie du marketing. Mais il était quand même pas très bon en finance. Mais faute de quoi, il avait tout inventé. Lui, les caves à côté des rails, l'énorme tonneau qu'a Épernay tracté par des bœufs pour l'Expo Universelle. C'était un génie du marketing, mais il aurait dû se prendre un financier. Bon, bref, on a racheté ce truc-là aussi. Et puis Dom Pérignon, la formidable histoire de Dom Pérignon. Alors, la légende étant ce qu'elle est, je reviendrai pas sur la légende, mais ça a été un pur coup de génie des dirigeants de l'époque qui ont sorti cette cuvée qui était initialement un cadeau pour l'importateur anglais. Voilà. Après, c'est Dom Pérignon, c'est une marque très intéressante parce que c'est plus du champagne, Dom Pérignon. Il est sur sa planète tout seul. C'est l'expression d'un art de vie, d'une qualité absolue, avec un petit côté show-off, des vins exceptionnels. C'est très intéressant. C'est vraiment une marque qui a su se sortir de sa catégorie.
Est-ce que vous pourriez nous dire justement comment une marque comme Dom Pérignon a réussi à se sortir de sa catégorie? Si on analyse avec un peu de recul maintenant, quels ont été pour vous les grands facteurs clés de succès?
Alors je pense qu'il y a tous les critères du luxe, donc une vision, un endroit, l'abbaye d'Auvilliers, une qualité absolue, une distribution restreinte, des prix très élevés. Ces cinq facteurs-là. Et après, il vous faut une espèce de petit plus que...
Qui est un peu de la magie, quoi, d'une certaine manière.
Ouais,
aussi.
Mais ça existe là comme dans d'autres catégories de produits. Hein. Je peux vous citer des montres qu'on s'arrache aux enchères, les voitures. Regardez Arcurial, le prix où sont vendues les voitures. Bon, après, à un moment donné, il y a cette espèce d'alchimie, cette espèce de lien invisible qui relie une marque et une conscience. Et ça, c'est la martingale. Mais ce n'est pas facile. Il faut aussi du temps. Aujourd'hui, je vois souvent des marques qui partent comme des missiles. D'aucune dure. Prenez Apple, quand même, ce n'est pas vieux, Apple. Hein. Mais ce n'est pas si simple, quand même. Ce n'est pas si simple.
Je suis très intéressée par ce que vous dites quand vous parlez de cette alchimie. Ouais. Et notamment, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez parfois fait des lancements qui n'avaient pas fonctionné. Ouais. Ma question, elle va dans le sens de est-ce qu'on peut savoir avec l'expérience ce qui va marcher ou pas? Est-ce que cette alchimie, finalement, on finit par la sentir? Ou est-ce que d'une certaine manière, ça reste quelque chose de totalement impalpable et que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas? Parfois on touche la martingale et on se donne tous les moyens pour que ça fonctionne. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir, mais il se passe quand même quelque chose qui est un peu impalpable.
Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, dans ce cas de figure, le lancement d'un produit, vous êtes un peu au bord d'un précipice. aujourd'hui, il y a des techniques qui vous permettent de limiter le risque. Les études de marché, les surveys, les études consommateurs. Là, il y a des tas de trucs sur Internet. Bon. Donc, vous pouvez limiter votre risque. En d'autres termes, si je tombe, ça ne va pas être très profond. Et puis, vous, si vous n'êtes pas complètement demeuré, vous vous dites, si ça foire, voilà une fallback position, voilà ce que je fais, etc. Donc, vous pouvez limiter ça. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de prédire le succès. Honnêtement, sur Ice Imperial, qui est peut-être où je me souviens quand on a lancé les premières lessives liquides, Vizir, bon, le succès...
Il vous étonne, quoi. Vous parliez d'étonnement avec...
Ouais, parce que les surveys vous permettent, une fois de plus, je pense, de limiter le risque. Mmh. De là à modéliser le succès, je connais personne qui vienne vous dire « ton truc, c'est une connerie, tu ne feras jamais rien ». Aucun institut vous dira ça. Ils vous diront « c'est moyen, vous devriez changer, c'est changer là ». Après, ce qui fait la différence, c'est souvent le génie ou le talent. Mais j'allais dire Dieu merci, parce que si on pouvait tout prévoir et tout modéliser, ce serait extrêmement embêtant de travailler. Hein, voilà.
Non, mais du coup, il y a quand même une part d'instinct même pour des marques.
Il y a une part d'instinct, sûrement. Il y a quand même beaucoup de talent. Il y a mettre les bonnes personnes à la bonne place. Voilà, c'est tout ça. Hein.
Vous avez évoqué précédemment, Stéphane, que vous aviez été, donc, en tant que jeune DG, entouré de personnes, vous savez, vous disiez qu'il y avait plutôt 50-55
ouais,
ans.
Ouais.
Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu des mentors?
Non, des mentors, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a des entreprises qui sont des écoles. Procter & Gamble, bon, j'y étais, je sais très bien comment ça fonctionne, ou que ça fonctionnait. Vous avez des entreprises, où on vous met des tuteurs. À cette époque-là, LVMH était plutôt, on te met dans la piscine et on voit comment tu nages ou si tu sais nager.
Oui, c'était assez entrepreneurial comme culture.
De caractère, c'est pour moi. Ça, c'était vraiment pour moi. C'est-à-dire, on te donne une entreprise, tu la gères comme si elle était à toi. Si c'est bien, fine, on fera autre chose. Si c'est pas bien, tu te fais autre chose. Mais ça, c'était tout à fait dans moi. C'était, voilà, ma personne. Ça m'allait très, très bien.
Donc, le fit entre votre personnalité et la culture de l'entreprise est très
important. Ah oui, le modèle, c'était parfait. Ouais. C'était plus petit, c'était plus flexible, les enjeux étaient peut-être moins grands et autres. Mais je me suis pleinement réalisé. J'aurais pas pu être dans un autre truc où j'aurais peut-être fait quelque chose à moi, ou je sais pas, mais ça m'a bien plu. Ouais.
Une question que je pose rarement, mais vous m'avez autorisé avant qu'on commence l'interview à vous la poser, c'est sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Quand on travaille, qu'on bouge beaucoup, vous avez évoqué le fait que vous aviez dû aller en Italie, il y avait eu potentiellement l'Argentine, etc. Est-ce que finalement vous avez réussi à un moment donné à trouver un équilibre avec votre épouse et vos enfants, ou en fait c'est une illusion?
Et pas vraiment. Non. Alors, personne ne m'a jamais mis un pistolet sur la tempe pour prendre tel ou tel job. Hein, si je l'ai fait, j'ai fait en connaissance de cause. En supposant que je ne suis pas complètement demeuré, j'avais quand même pesé les facteurs clés de succès de prendre ce job. Petit conseil pour les jeunes, si vous voulez vous balader à l'international, il faut, au moment où vous officialisez une relation avec un ou une, mettez-vous d'accord à ce moment-là sur qui suit qui. C'est beaucoup plus facile de le faire avant que de le faire quand vous êtes au pied du mur. Je dis à tous les jeunes ce truc-là. Véronique et moi, on savait qu'on allait partir. Ma femme avait quand même un gros job de commercial, patronne Europe, d'un business commercial. Mais c'est elle, entre elle et moi, ça a toujours été très clair. Elle est arrivée à Milan. Elle était présidente de Milan Accueil, l'association, etc. Elle était très active sur du charity, des trucs comme ça. Ce qu'elle fait encore maintenant avec Force Femmes. Donc voilà, mais il faut que quelqu'un, mieux vaut le faire avant. J'ai pas souvent été là, surtout sur les maisons de champagne. Clicquot et Mouette, on voyage quand même pas mal. Faut leur poser la question à eux, à mes trois gamins et à Véro, mais je pense pas que ça a été invivable.
J'espère pas.
Non, enfin, en tout état de cause, on ne me l'a jamais dit. On m'a jamais dit arrête, pars pas le dimanche, rentre pas le dimanche. Non, on ne m'a jamais dit ça. Non.
Et niveau santé, niveau fatigue, ça aussi, c'est une question, je pense, qu'on se pose quand on voit des dirigeants comme ça, qui a une certaine longévité.
Je passais une visite médicale. Et donc, le médecin, il vous dit entre 0 et 10, quel est votre niveau de stress? Et je disais 2. Alors, les gens, ils disent quand même... En fait, le jour où j'ai compris que finalement, mon métier était de régler des problèmes, ça devient tout à fait normal. Donc, quand les trucs se succèdent,
oui, un problème, c'est la normalité. Devises, quoi.
Vous dites, bon, bah, finalement, voilà, c'est une touche de piano parmi d'autres. Et ça, ça m'a donné une grande sérénité. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt les nerfs solides, mais le fait de vous dire, bah, finalement, parfois, ça me fait penser à certains de nos ministres. Je me dis, j'aurais pas été à sa place quand même. Hein. Bon, mais peu importe. Voilà, donc là-dessus, j'ai trouvé la sérénité. Je vous dis pas que j'ai toujours été calme et tout. Mais sur l'histoire vie privée, vie perso, je pense pas que ça a été... Après, il y a de bons côtés quand même. C'était à Milan, ils ont vu un beau pays. Voilà, après, le monde parfait n'existe pas. Hein. C'est comme ça. C'est des trade-offs entre différentes choses.
Et il est bon de le rappeler.
Voilà.
Alors, on va arriver, Stéphane, si vous l'acceptez, à d'autres petites questions personnelles. La première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie un grand échec ou un échec qui vous a marqué, dont vous pourriez me parler, et surtout les enseignements que vous en avez retirés?
Moi, les échecs, c'est lié à l'humain. C'est pas... Parce que dans les affaires, en fait, c'est souvent binaire. Hein. J'ai l'argent pour changer une ligne de production ou pour payer, c'est souvent oui-non. Donc ça, c'est quand même assez simple. Ce qui est compliqué, c'est l'humain. Il y a des choses qui m'ont profondément marqué. Par exemple, c'était Clicquot, ouais. Un collaborateur qui met fin à ses jours dans un atelier. Ça m'a... Parce que là, vous vous dites, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une connerie quand le gars laisse une lettre. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Ça m'a profondément marqué. À Épernay, ça s'était produit aussi. Il y a des choses avec lesquelles j'ai jamais été à l'aise, c'est quand la vie privée arrive dans votre bureau. Alors maintenant, on en parle plus facilement, mais il y a quelques années, tout ce qui était harcèlement, tout ça, c'était quand même beaucoup plus délicat, j'ose dire, à gérer que ça ne l'était aujourd'hui. Et là, c'est parole contre parole.
Ouais.
Donc ça, c'est la chose la plus difficile, honnêtement. J'ai jamais eu affaire de plans sociaux, de trucs comme ça, où vraiment à la marge et dans des conditions telles que j'avais plus de volontaires que le nombre de gens qui devaient partir. Donc ça, j'ai jamais eu à le faire. Le social, de temps en temps, n'était pas vraiment d'accord avec mes amis CGT, mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. L'humain, et là où je suis pas à l'aise, c'est quand et c'est de plus en plus le cas quand même, hein, quand la vie privée interfère avec la vie professionnelle. Parce que j'étais pas formé pour ça, c'est pas mon truc, voilà. Et j'observe quand même que c'est de plus en plus le cas. Je vois tous ces accords sur le télétravail, tous ces trucs-là. Finalement, on a des lois qui sont plutôt séparées le travail du privé, mais cette épidémie de Covid est en train de plutôt faire le contraire, quoi. Donc, je me demande bien comment tout ça va finir.
Vous, à l'époque, quand vous aviez le personnel, le privé qui arrivait au bureau, vous aviez des personnes, des RH, etc., peut-être qui vous aidaient, en fait, justement.
Oui, mais ces affaires-là dont j'ai eu la chance de m'occuper sont quand même très familiales. C'est des familles, hein. Ruinart, c'est une famille. Clicquot, c'est une famille. Mouette, c'est Chandon de Bria et tout ça, c'est des familles. Donc, il y a ce côté qui fait partie du code génétique de la société. C'est quand même familial. Donc, oui, il y avait les équipes ressources humaines, très compétentes et tout. Mais à un moment donné, quand vous avez vraiment un drame, c'est quand même
pour
moi
quoi.
Qui suis payé pour ce truc-là, hein. Voilà. Ça, c'est pas évident. Maladie professionnelle, maladie privée, ça aussi, c'est pas évident avec le travail des vignes. Donc, ces sujets-là, c'est ce qui est le plus difficile pour moi dans mes activités.
Et comment vous arriviez à faire, à prendre des décisions? Parce que, comme vous dites, à un moment donné, déjà, vous n'étiez pas sur place, c'est pas évident.
Le processus de prise de décision, tout le monde le fait, c'est un arbre de décision. Bon, à un moment donné, le pire, c'est de ne pas prendre de décision. Donc, je préfère prendre une mauvaise décision parce que je me dis, c'est très rare de ne pas pouvoir revenir sur une décision. Ça peut coûter de l'argent, des tas de trucs, mais on peut revenir dans 99% des cas. Si vous ne décidez rien, alors vous perdez un truc qui a un prix... énorme, c'est la crédibilité des gens que vous dirigez vis-à-vis de vous-même. Si vous perdez ça, là, vous êtes quand même... Parce qu'on peut tout demander aux gens, hein, à condition de leur expliquer pourquoi, où on va, quand est-ce que ça se finit et comment ça va se passer. Parce que les gens, ils sont dans le même bateau que vous, finalement. Si vous faites ça, vous pouvez les amener au bout du monde. Mais il faut qu'ils vous croient. Il faut que vous donniez un sens à ce que font les gens. Alors, si vous avez une seule activité, c'est facile. Mais quand vous avez la prod, le vignoble, je sais pas quoi, le marketing, les ventes et tout, il faut essayer de fédérer tout le monde sur une plateforme commune. C'est ça qui vous fait aller loin. Pas le vignoble fait son truc, la prod de l'autre côté, les juridiques de l'autre. Ça marche pas forcément comme ça. Enfin, pas sur les entreprises dont je me suis occupé en tout cas.
Autre question pour vous, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment ?
J'ai pas tout bien fait. Je pense que j'ai pas fait de grosses bêtises, mais j'ai sûrement fait une somme de petites bêtises. Certaines ont dû se voir, d'autres pas. Peut-être j'aurais pu faire une expérience dans une autre activité, parce que c'est vrai qu'un quart de siècle en Champagne, c'est beaucoup, hein, vous voyez. Mais je vous le dis en toute franchise, si j'avais fait de grosses bêtises, je dirais j'ai fait des grosses bêtises, il n'y a pas de... voilà. Peut-être au moins... Enfin, c'était une bêtise, mais c'était aussi intelligent. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai décidé que c'était bien, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne me reconnais plus vraiment. Par exemple, quand moi je vendais des lessives et des couches-culottes, on faisait de la pub à la télé, à la radio, en 4x3 et dans les magazines. Simple, tranquille. Bon, à aujourd'hui, je discute avec les jeunes de PC, réseaux sociaux, machin et tout. À un moment donné, il faut avoir l'intelligence de se dire, il y a un moment, et je pense que j'y suis, où vous pouvez donner votre expérience, ce qui ne veut pas dire demander à quelqu'un de faire la même chose que vous, très différent, tout en les laissant se réaliser, parce que les générations sont différentes. Hein, moi, je n'ai pas fait comme mon père, et ainsi de suite. Donc ça, j'ai plutôt bien fait. On peut retourner le truc en disant, t'aurais pu t'occuper un peu plus de ça. Peut-être, il y a des égéries, si c'était à refaire, je ne les aurais pas prises. Bon, voilà. Mais de grosses bêtises, sincèrement, je ne crois pas. Ça peut arriver.
Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Est-ce que vous en avez un qui vous vient à l'esprit ?
C'est marrant, mais tout à l'heure, on m'avait dit mentor, j'ai répondu non. Il y a des gens que vous rencontrez dans une carrière qui sortent de l'ordinaire. Hein. Moi, j'ai eu la chance de connaître des très, très grands patrons. Voilà, et si je devais garder quelque chose, ils m'ont dit n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même, tu ne seras pas parfait. Mais dès lors que là où tu es bon masquera, parce que parfois on peut être plus mauvais que bon, mais ça soit moins, mais dès lors que, voilà, ça ira. Hein, ça, c'est un truc. La deuxième chose, c'est n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais ce que vous êtes quand vous dirigez un truc que parce que les gens veulent que vous le soyez. Si vous voulez durer, vous pouvez mettre un type qui n'y comprend rien pendant 2 ans à la tête d'un truc. Ça va aller. Mais ça va s'étioler. Hein.
Oui, et voilà. Pas seulement donc, les actionnaires, les dirigeants, mais aussi les partenaires et les collaborateurs.
L'autre truc aussi, essayer d'être partout. Alors, Épernay, c'était grand, mais quand même, j'essayais d'être partout. Quoi. Les gens... Alors maintenant, c'est peut-être en train de changer hein, avec télétravail et tout, mais au risque de me tromper, je pense que même les jeunes générations ont besoin de savoir qui est sa patronne ou son patron, où il ou elle est, et qui il ou elle est. C'est pour ça que j'observe beaucoup, par exemple, je ne cite pas, mais des consultants, il y a un patron à Tokyo, l'autre gars qui est à Glasgow et un troisième à Cape Town. Je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner. Et ce n'est pas une question de moyens de communication, parce qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. C'est une question sur comment est-ce qu'on fait pour amener tout le monde, où on leur dit, ben voilà, il y a un nid de mitrailleuse, vous avez quand même que des bananes et on va aller dégommer la mitrailleuse. Ça, c'est un peu différent. Et je ne suis pas sûr que ça se fasse avec des technologies. Je caricature un peu. Pas des mitrailleuses, pas des bananes, mais ça rend le sens.
Est-ce qu'il y a une citation, une maxime qui vous parle, peut-être que vous vous répétez de temps en temps, que vous pourriez partager avec nous ? Ou pas ?
Ouais, il y avait, quand c'était particulièrement long, c'est on a le temps de tuer un âne à coup de châtaigne. Qu'est-ce qu'il y avait encore ?
On a le temps de tuer un âne à coup de châtaigne. Ça veut dire que c'est trop long.
Figue molle, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment long. Il y en avait 2-3 autres, mais ils avaient fait une BD à Épernay, mais je l'ai pas pris.
Ah, une BD avec vos citations.
Avec des expressions. Ouais.
Vous aviez pas votre langue dans votre poche, donc.
On peut pas tout dire tout le temps, mais plus vous pouvez dire la vérité. Surtout quand elle n'est pas bonne à dire, parce qu'autrement, n'importe quel abruti le fait, c'est assez facile. Mais si vous êtes capable de le faire sans démotiver la personne et dans le respect de ce qu'elle est, même si c'est des choses pas faciles, alors faites-le.
Ouais, c'est ça. Encore 3 questions.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée ? Ce que j'entends par là, c'est une opinion sur quelque, sur la société, sur le monde
d'aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de faire une grosse bêtise avec les voitures électriques. Parce que je voudrais quand même bien que quelqu'un explique à nos compatriotes, auxquels on a dit pendant 40 ans de consommer du diesel, on est bien d'accord. Brusquement, le diesel coûte plus cher que le 98. Bon, très bien, personne n'y trouve à redire, parfait. Là, on est en train de nous dire, à juste titre, éteignez les lumières, déconnez pas, machin. Mais d'un autre côté, on pousse aux voitures électriques. Alors moi, je voudrais quand même bien savoir par quel miracle on va pouvoir approvisionner en électricité toutes ces voitures. Première question. Deuxième question, pour l'avoir vu moi-même dans certains pays africains que je ne citerai pas, je ne suis pas sûr que la manière dont on exploite les métaux rares soit pire que ce que l'on fait en pétrole à l'heure actuelle. Et j'ai aucun intérêt dans de sociétés pétrolières. J'aimerais
mais
bien...
c'est vrai que vous avez raison, les métaux rares, on en parle très peu. Et le
moi,
lithium...
je les ai vus, hein, épais. Bon. Mais là encore, on en revient à ce que l'on disait. Je trouve qu'on est beaucoup en train de poser des avions et peut-être il faudrait éclairer un peu la piste.
Mais donc avoir du discernement, se poser des questions et ne pas prendre pour acquis parfois des objets marketing.
Là, je trouve que, oui, c'est un peu exagéré. Vous m'avez demandé un exemple. Bon, après, j'aime les voitures et tout, j'ai peut-être un petit coup de cœur, mais,
ah, mais
je trouve que sur cette histoire de voitures électriques, je ne suis vraiment pas convaincu, moi comme d'autres.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, dans votre vie personnelle ou professionnelle d'ailleurs ?
Sur les trucs de fond, les croyances et les comportements de fond, non, j'ai pas changé d'avis. Mais par contre, il m'est arrivé de me dire j'avais trouvé celui-ci complètement génial ou celle-ci géniale et en fait, c'est pas du tout le cas, ou vice-versa. Et là, c'était un peu une des limites du système parce que quand moi j'étais jeune, on mettait les jeunes diplômés, il y avait trois courbes comme ça, donc l'ancienneté puis les salaires, et puis il y avait une courbe, bon, des gars qui n'étaient pas faits pour ce métier-là, une courbe du milieu, puis une courbe haute qui était highly promotable. Donc une fois que vous étiez sur cette courbe-là, vous pouviez faire toutes les conneries que vous vouliez, c'était le pire pour en sortir, quoi. Et il fallait écrire à DRH et tout ça. Donc voilà, on est sorti de ces trucs-là, je trouve ça plutôt bien. Changer d'avis, ouais. Le bon proctérien que je reste encore a toujours cru sur des trucs normés, mais plus ça va... plus je trouve que tous les systèmes d'évaluation des collaborateurs actuels sont sclérosants, sclérosés et non motivants. C'est-à-dire que quand vous avez une grille et je vais dire, bon ben voilà Pauline, alors de A à E, je vais te mettre C, ce qui est en gros 80%, 70% des personnes. Après, pour faire plaisir au RH, il faut en mettre un peu en A et un peu, parce que c'est la gaussienne. Je trouve que c'est stupide, c'est bon. Et j'en reviens à ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le courage de dire des choses parfois désagréables. Mais c'est aussi le fait que l'individu souvent veut se défausser de ses responsabilités. Et c'est beaucoup plus facile de dire, il faut que je remplisse des cases.
Puis voyez, on met au milieu,
c'est rassurant.
Parce que...
voilà. Donc j'ai toujours été, quand je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de patron qui patronne, j'ai jamais condamner quelqu'un ou parce qu'il a fait une connerie. Jamais. Il ne faut pas en faire 36, mais une, jamais. J'ai toujours préféré qu'il décide plutôt que pas. Et je trouve quand même que tous ces systèmes, et je pense qu'il faut que les gens des ressources humaines s'interrogent sur ça. Je pense que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un quotidien que sur une classe d'âge de diplômés de grandes écoles, seuls 14% aujourd'hui se voient travailler dans des groupes du CAC 40. Quand même s'interroger sur ça. Hein, parce que grandes écoles, on peut discuter tous les systèmes, tout ce qu'on veut, mais les cerveaux, ils sont quand même pas mal chez eux. Si on les a plus, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et quand je discute avec des jeunes, puis maintenant j'ai le temps, hein, c'est quand même un vrai luxe, vous vous rendez bien compte qu'ils se disent « Mais attends, c'est qui celui-ci voilà, quoi, qui m'évalue parce que j'ai rendu un truc à l'heure ou pas ?» Il faudrait peut-être revoir un peu ces trucs-là. Mais ça suppose quand même qu'on en revienne à un moment où quelqu'un porte un jugement sur quelqu'un d'autre, doit le faire de manière la plus intellectuellement correcte, avec les biais que forcément ça connote. Mais je préférerais toujours ça plutôt qu'une grille à la con qui n'est jamais que de l'encre et du papier.
Très intéressant, très intéressant. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre, ou des livres d'ailleurs, qui vous ont particulièrement inspiré, marqué, peut-être même transformé ?
Oh, ben, le Kotler de mon époque, le Kotler qui était la bible marketing, donc ça je m'en rappelle encore, puis je conseille à d'autres gens, qui m'ont vraiment marqué... pas spécialement, je lis pas mal quand même, mais marquer, vous dire que j'en fais... je me méfie beaucoup des livres de management, par exemple. Là,
vous en lisez pas, pas trop.
Si, on m'en a offert, mais bon, j'ai lu les trucs de Steve Jobs, de tout ça, c'est des gens fantastiques, une chose et l'autre, très bien. Est-ce que c'est réplicable? Est-ce que c'est duplicable? Je ne sais pas.
Oui, mieux vaut être soi-même, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui, oui. Voilà. Après, honnêtement, ce n'est pas que j'ai une haute opinion de moi, mais des bouquins qui m'ont vraiment inspiré.
Et en littérature, en histoire?
Je lis, on a une bonne libraire en Normandie, là, je vis quand même pas dans maintenant, qui lit les livres qu'elle vend, donc c'est quand même un truc rassurant. Elle m'a fait lire deux bouquins espagnols d'une fille qui s'appelle Carmen Mola, qui fait des trucs policiers. Donc il y en a un qui doit s'appeler La Bestia et l'autre qui doit s'appeler La Secte Rouge, non, Pourpre, le Réseau Pourpre, voilà. J'ai lu le truc de François-Olivier Gisbert, évidemment, à la belle époque, puisque j'ai connu tous ses présidents, on est de moins en moins... Voilà, donc assez éclectique. Je suis un collectionneur de BD et je lis beaucoup de trucs sur les voitures classiques parce que j'aime ça. Voilà.
Stéphane, merci mille fois pour
plaisir,
votre
Pauline.
Temps.
Ouais.
Si les personnes qui nous écoutent ont envie de vous contacter, de vous suivre, de suivre vos actualités, donc déjà, bon, bah, ils peuvent aller faire un tour sur Champagne PC.
Quand même, qui va être intéressé par ça, Pauline?
Alors, messieurs, dames, si vous nous écoutez jusque-là, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Stéphane pour lui dire que vous avez apprécié l'épisode, parce que vous voyez, il a des doutes. Vous êtes trop humble. Mais alors, dites-moi, vous êtes présent sur LinkedIn? Non. Mais vous n'êtes nulle part.
Mais je vais vous expliquer quelque chose, ma chère Pauline. C'est que quand j'ai rejoint LVMH, il y a quand même très longtemps, même si j'en suis parti maintenant, on avait un cours de formation qui était comment, en gros, se dépêtrer des questions de la presse et comme instruction de ne jamais apparaître ou le moins possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien de perso. Pas de photos, c'était que la photo des produits et pas de réseaux sociaux.
Et pourquoi cette...
Parce que le monde a beaucoup changé, parce que les entreprises à cette époque-là étaient comme ça, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui.
Pour vous dire que la presse à l'époque n'était pas toujours
non,
avec
c'est
elle.
Non, ce n'est pas ça, mais il y avait une règle, c'était okay. Comme ça. Après, bon, bah, tout ça a changé, mais je rappelle quand même aux jeunes gens qui écoutent... Quand moi, j'ai commencé à passer mes premières commandes chez Procter & Gamble, j'allais à la poste, je demandais une cabine, on me donnait un morceau de bois, il y avait trois, j'allais dans la cabine 3, je passais les commandes, mais le monde tournait quand même. Hein.
Mm.
D'accord? Donc, il faut... voilà. Après, tous ces réseaux sociaux, je ne suis sur aucun. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Je ne suis pas chaud pour changer d'avis quand même. Je trouve que... c'est pas tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est quand même cet étalage de vie privée. Moi, je vois les enfants, enfin, ils sont grands maintenant, mais même ma femme, bon, je sais pas, moi, il y a un gars dans sa cuisine, il épluche des haricots. vous voyez, je vois pas bien qui ça intéresse, quoi. Et si on doit faire attention à la planète, peut-être il faut pas écrire trop d'emails et utiliser trop de conneries, il faut être cohérent aussi.
Alors, dans ce cas, Stéphane, si jamais on a envie de vous dire merci. Parce que je pense que ça sera le cas. Eh bien, contactez-moi sur mes réseaux, messieurs, dames, et puis je vous ferai le relais.
Super. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci
Pauline. À vous. Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.